Voilà, on est le 2 janvier 2024. Ça ne peut pas vous avoir échappé, à l'évidence. Alors, vous savez que la tradition veut qu'on se souhaite des tas de bonnes choses, des vœux, comme on dit. Et la tonalité générale que j'ai remarquée dans les vœux que j'ai pu recevoir, et je pense vous aussi, c'était de dire, bon, on souhaite au moins de bonnes choses et la santé pour les proches, les amis, la famille. Quant à la situation globale, c'est pas très très clair. Alors, il y en a qui sombraient dans la collapsologie, ça va très très mal. D'autres qui disaient, il y a quand même des éléments intéressants. Mais enfin, il y avait une espèce d'attitude prudente par rapport à la période de 365 jours, ou 6, d'ailleurs on est en année bissextile, qui s'ouvre devant nous. Et c'était assez intéressant de faire ce test-là en disant finalement on réservait les vœux sincères aux proches qu'on connaît, on espère qu'ils n'auront pas plus de soucis qu'ils n'en ont eu l'année dernière, et puis pour le reste, une phase d'observation, alors j'allais dire observation avant transformation, car c'est bien de ça qu'il s'agit, il s'agit d'observer, parce qu'on sent que la transformation est en cours, mais comme on dit classiquement, pendant la mue, le serpent est aveugle, c'est-à-dire qu'aucun d'entre nous individuellement n'a la capacité de prévoir exactement ce qui va se passer, tellement les forces et les énergies en jeu sont considérables. Mais c'est l'occasion aussi pour revenir, c'est l'occasion qui se présente à la limite tous les ans, pour revenir sur ce calendrier. Aujourd'hui, le monde entier, d'une façon ou d'une autre, célèbre le 1er janvier de l'année nouvelle. Alors il faut savoir que ça correspond à l'adoption très largement majoritaire de référence du calendrier grégorien. Calendrier grégorien, donc instauré par un pape, quelque part entre le 16e et le 17e, je ne sais plus exactement, c'est pas très grave, et qui donc s'est imposé partout, même si chacun continue à avoir son calendrier à lui pour certaines fêtes, pour sa fête nationale, pour son nouvel an, comme le nouvel an chinois, ça n'est jamais le 1er janvier de l'année grégorienne. De la même façon qu'on connaît le calendrier égérien, donc le calendrier de l'Égypte, qui est celui des musulmans. Alors les pays musulmans savent aussi que le 1er janvier, là, on change d'année, mais en fait, ils ont aussi leur calendrier à eux qui sert pour des raisons religieuses, calculer la date du ramadan, etc. Hein? Bon, tout ça est connu, mais c'est bon de le rappeler en disant que, il faut réfléchir d'ailleurs à ce que ça a été cette mondialisation des normes de référence de la totalité de l'espèce. On peut considérer aujourd'hui que le calendrier grégorien, c'est une référence pour la totalité de l'humanité vivante. Même si après, chacun garde ici ses particularités. Certains orthodoxes décalent le nouvel an un peu plus tard, les Chinois ont le leur, etc. etc. Je ne rentre pas dans ces détails, vous les connaissez. Mais il s'agit plus de survivance nationale ou religieuse dans le cas du calendrier égérien, qui n'empêche pas que tout le monde sait que le 1er janvier, on fait la fête au 31 au soir, un peu partout dans le monde entier. Et à peu près de la même façon. Sauf à des endroits où on n'a pas pu la faire cette année. Et je peux vous dire qu'en participant, donc c'était avant-hier, à la manifestation de soutien au peuple palestinien qui avait lieu à Marseille, j'ai beaucoup apprécié le fait que les jeunes qui animent la coordination pour qui organise ces manifestations ont dit, ce soir, nous ne faisons pas la fête. Et manifestement, il s'agissait de jeunes qui avaient d'habitude l'envie et l'habitude de la faire et qui disaient, ce soir, ce sera comme à Gaza, on ne fera pas la fête. On sera en deuil des Palestiniens, on sera en deuil pour Gaza. Ouais. Et donc, ce n'est pas le moment de boire trop et de sortir, etc. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que ce n'était pas calculé, ça leur est sorti du fond du cœur et c'était un message qui avait du sens, surtout en plein milieu d'une manifestation pour la Palestine, qui était de taille modeste, comme elles le sont hélas en France depuis les débuts, mais qui existait et qui s'est maintenue. Je le signale pour les auditeurs non marseillais que depuis donc la première semaine, la deuxième semaine d'octobre 2023, il y a eu tous les samedis ou les dimanches, ça a varié, une manifestation de soutien au peuple palestinien à Marseille, qui a toujours été autorisée et qui n'a jamais dégénéré. J'insiste là-dessus parce que ces jeunes gens qui sont probablement allés voir et allés contacter, enfin les côtoyer maintenant depuis quelques semaines, des nouveaux en politique, j'allais dire, dans ce type d'action, ils sont très prudents et ils ont conscience que si jamais ils allaient dans un sens qui serait celui d'un accrochage, d'une provocation par rapport à la police, etc., ils desserviraient aujourd'hui la cause qu'ils veulent servir. C'est très très clair dans leur esprit. Hein. Nous sommes là pacifiquement pour appeler à la paix, et donc on ne va pas faire des sottises, je mets ça entre guillemets, parce que ce n'est pas le but. On doit être respectable et respecté, parce que notre cause est respectable. Ce n'est pas nous individuellement, c'est la cause qui l'est. Et en ça, ils portent très très bien ce message. Et je m'en félicite. C'est pour ça que je participe volontiers à ces manifestations.
Nous aussi.
Et voilà. Et Habib, qui est à côté de moi et que je salue, est très content de participer avec moi à ces manifestations.
Le cœur, il n'y est pas. Mais bon.
Le cœur n'y est pas. Et Roselyne, à l'occasion, et des nôtres, que je salue Roselyne, donc, qui est à la cabine technique, comme à son habitude. Et on a le plaisir à la retrouver après cette petite interruption des vacances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la période écoulée ? Mais il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Effectivement, on a changé d'année, ça vous savez, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus. Mon introduction, il suffit. Mais on a eu un certain nombre d'événements qui sont remarquables. Sur le cas de Gaza et de la Palestine, ce qui a un peu suscité la curiosité et un intérêt nouveau, c'est le fait que l'Afrique du Sud est elle-même... Et le premier État à le faire, d'autres avaient envisagé de le faire, mais elle a pris les devants. Et c'est très bien que ce soit l'État qui a le plus souffert d'un apartheid violent, exactement, brutal, sanguinaire, etc., qui le fasse. Elle a porté plainte contre la Cour internationale de justice pour génocide contre Israël.
Ouais.
Alors pourquoi une plainte pour génocide peut être reçue à la Cour internationale de justice? Tout simplement, et je souligne, ça c'est très important, c'est assez peu connu dans l'opinion, parce qu'il existe une convention internationale pour interdire les génocides. Oui. Cette convention internationale en matière de droit humanitaire se range parmi les plus anciennes. C'est-à-dire, elle a été signée en 1948 et, paradoxe de la situation, Israël a été un des premiers signataires. Israël, qui avait été créé de la façon dont on connaît quelques mois avant, signe parmi les premiers États la Convention contre le génocide. Et il le fait à l'époque, on le comprend fort bien, puisque cette convention est le produit direct des résultats du tribunal de Nuremberg, cette première juridiction internationale qui condamne pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide un certain nombre de dirigeants nazis. On comprend bien qu'Israël se trouvait tout à fait à sa place dans cette convention et a signé. Il se trouve que depuis, Israël a beaucoup changé et donc se retrouve devant la Cour internationale de justice, étant lui auteur d'un génocide. C'est ce que la Cour internationale devra confirmer. Alors, elle le confirmera, puisqu'il est inutile de dire que tout ce qui s'est passé, tout ce que l'opinion mondiale dans son entièreté a pu constater, le génocide est bien en cours, c'est-à-dire une tentative d'élimination d'une population pour ce qu'elle est, non pas pour ce qu'elle pense, ni pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle est. C'est la condition de Palestinien qui est visée quand on est victime d'un génocide en tant que Palestinien. C'est le fait d'être un Palestinien. Donc là, j'ai pas d'inquiétude quant au jugement qui prendra un certain temps de la Cour internationale de justice. Ce que je voulais cependant souligner et qui mérite de l'être pour tous ceux d'entre vous qui ont pensé qu'il s'agissait là d'un pas important. Alors il s'agit bien d'un pas politique important, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud est le meilleur État possible pour avoir déposé cette plainte pour apartheid et pour génocide, puisqu'il en a été lui-même victime, et qu'il est sorti. Il faut se rappeler que les relations entre le régime d'apartheid d'Afrique du Sud et le régime d'Israël étaient extraordinairement étroites. L'un se reconnaissait dans l'autre. L'un était l'exemple même de l'autre. Ce qu'il fallait, la marche à suivre, c'était l'espèce... Israël était le phare de l'apartheid, ou l'apartheid était le phare. Enfin, il y avait une espèce de rapport de fraternité, un peu gênant de dire fraternité dans ce genre de circonstances, mais un rapport d'assimilation. Ils se ressemblaient tellement qu'ils travaillaient ensemble. Ils avaient tellement envie de se ressembler qu'à un moment donné, Israël a commencé à travailler à la fabrication de la bombe atomique sud-africaine. Ça allait très très loin. Et à quoi aurait servi une bombe atomique sud-africaine ? Elle aurait servi à terroriser l'ensemble des nations africaines qui n'étaient pas encore décolonisées et qui avaient envie de l'être. Donc on installait un gendarme, pourrait dire sioniste, au sud du continent africain, et de là, on faisait peur à tout le monde, et donc plus personne ne bougeait. l'Afrique se calme parce qu'il y a la bombe atomique sud-africaine. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu parce que l'ANC a gagné et que parmi les premiers actes politiques très importants de l'ANC, on l'a peu commenté, et pour moi, c'est en termes de géopolitique un des actes les plus importants de la prise de pouvoir de l'apartheid, c'est la renonciation à l'arme atomique. Et renoncer à l'arme atomique, c'était renoncer à jouer en Afrique le rôle que Israël voulait jouer et tente de jouer encore sur la partie moyenne-orientale de l'espace. Ça, c'est très, très important à raconter parce que c'est peu connu. On n'en reparle pas, à telle enseigne que ça dérange, je pense, beaucoup les commentateurs. Et vous souvenez qu'il y a quelques semaines, là, dans les débuts de l'offensive israélienne sur Gaza, il y a un des ministres qui s'est laissé aller en disant « Ah, il faudrait lancer la bombe atomique. » Et puis, il ne s'est plus rien dit, car c'est un sujet extrêmement délicat. C'est un sujet extrêmement délicat parce qu'on a dû lui dire de se taire, de ne pas recommencer. C'est un sujet sur lequel il y a une volonté discutable mais qui existe de l'ambiguïté nucléaire d'Israël, qui est une position qu'ils ont prise de principe en disant « Tout le monde qui veut savoir que nous avons la bombe atomique peut le savoir, nous ne le reconnaîtrons jamais. » Donc, c'est-à-dire, j'instaure le mensonge par omission comme politique d'État. C'est très très lourd, c'est très très lourd. Hein, et ça en dit long sur ce qu'est la conscience sioniste. Instaurer le mensonge d'État comme une vérité permanente. Hein, c'est très très fort. Bon, donc on n'en parle plus. Ce monsieur n'a pas réitéré ses menaces. Et je pense que du côté des militaires, on a dû lui expliquer qu'il y avait effectivement des difficultés à utiliser ce genre d'armes. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on a déjà eu l'occasion d'en reparler, mais qu'en plus, ceux qui ne l'ont pas aux alentours ont des capacités de défense non négligeables et que toute erreur de tir nucléaire israélien aurait des conséquences catastrophiques pour l'État d'Israël. Alors, je ne développe pas là-dessus, ouais. Les militaires le savent, mais effectivement, il y a des capacités balistiques considérables qui sont entre les mains en particulier de l'Iran et d'autres qui permettent de dire ne jouez pas à ça parce qu'il vous en coûterait très très cher. Bon, je ne m'étends pas trop là-dessus et je reviens sur cette question de la Cour internationale de justice. Donc, geste politique extraordinaire, fort et significatif, et en même temps, j'arrive pour un peu jeter de l'eau froide sur cet enthousiasme. C'est-à-dire, il faut savoir que la Cour internationale de justice est une cour créée par l'ONU, c'est la Cour de justice de l'ONU, qui est chargée, je souligne la phrase, de dire le droit. Dire le droit, ça veut dire, au terme d'une enquête, après examen des textes, des réalités, etc., menée par une équipe de juges de différentes nationalités, la Cour internationale du droit va dire, effectivement, sur tel point, tel pays a raison ou il a tort. Ça ne se fait pas en deux phrases comme je viens de le faire. Ça se fait, j'ai lu par exemple un jugement de la CIJ sur le minage des ports nicaraguayens par les États-Unis du temps des sandinistes. Effectivement, on a un jugement qui doit faire 45 pages, enfin des attendus de jugement qui doivent faire 45 pages, et à la fin, la Cour internationale de justice conclut que le minage des ports nicaraguayens par les États-Unis est illégal. Mais ça n'a pas débouché sur grand-chose, même sur rien du tout. Ça n'a débouché sur rien du tout. C'est-à-dire que là s'arrête la compétence de la Cour internationale de justice. Elle dit le droit. Dire le droit, c'est-à-dire coucher sur un papier avec tous les arguments qu'il faut et un travail d'enquête extrêmement poussé et sérieux de dire un tel a tort ou un tel a raison. Satisfaction politique considérable. Que la CIJ dise « Israël a tort » en éliminant les Palestiniens, on s'étonnerait qu'ils puissent dire le contraire. Mais ça n'a pas de conséquences pratiques. Et là-dessus, je reviens sur ce que c'est que dire le droit par rapport à appliquer le droit. Quand on applique le droit dans un pays comme le nôtre, on va dans un tribunal qui dit le droit, qui dit « voilà, j'ai étudié les deux parties, j'ai repris les arguments des uns et des autres, et je condamne l'un ou l'autre à telle peine en fonction des codes existants, civils, pénales, etc. Bon, » je condamne. Et quand je condamne, je veux dire qu'il y aura une peine exécutoire. C'est-à-dire que si je condamne monsieur ou la société XY à 5 ans de prison ou à 100 000 euros d'amende ou à 5 millions d'amende, ils vont devoir s'exécuter, soit aller en prison, soit payer l'amende, etc. Donc la force n'existe pas pour la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice ne dit que le droit. Elle n'a pas de bras armés. Elle n'a pas de police à son service. Et l'ONU n'a pas ce rôle-là. L'ONU a simplement voulu... Vas-y, on t'écoute, Roselyne. Non, on ne t'entend pas. Mets ton micro.
Elle n'a pas de juge d'application des peines.
Non, puisqu'elle ne prononce pas de peine.
Oui,
non.
Mais en tous les cas, juge d'application de la loi, alors.
Oui, non, elle n'a pas de peine. Il n'y a pas de peine. Elle D'accord. dit, un tel a fait des erreurs, il a violé Sans tel plus. Texte, ouais. telle convention sur le génocide, et on a examiné... Alors, un tel, il a les possibilités de se défendre. Il explique pourquoi. Il considère que lui, il n'a pas violé la loi sur le génocide, mais c'est tout. Et une fois qu'on a entendu les deux parties, j'allais dire, la CIJ qui est saisie, donc le point de vue de l'Afrique du Sud, et le point de vue d'Israël qui vient, on a le juge dit, ben voilà, je considère que c'est l'Afrique du Sud qui a raison. Je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement dans le cas. Je ne suis pas à leur place, mais je ne vois pas comment, décemment, sans se ridiculiser totalement, ils pourraient dire le contraire. Alors, il est arrivé des cas, parce qu'il y a en général au moins 7 juges, il y a un nombre impair pour que ça puisse ne pas se partager avec un vainqueur. Et il est arrivé des cas où il y a un juge qui dit non, qui dit, je pense que... imaginons qu'il y ait dans les 7 juges un juge qui dise Israël a raison et n'a pas commis génocide, il y en aura un. Mais il y aura 6 autres qui auront dit « il a commis un génocide » et donc l'arrêt de la CIJ sera « Israël a commis un génocide ». Alors ça, ça se voit dans le détail des travaux de la Cour internationale de justice. Mais là où j'insiste, c'est qu'après ça, il ne peut plus rien se passer. C'est-à-dire que après, et ça ne se fait pas en 24 heures en plus ce travail-là, hein, après ce travail-là consistant à dire effectivement la CIJ et donc l'ONU affirment que Israël a commis un génocide, ça ne va pas plus loin. Alors ça va très loin politiquement, puisque tous les pays du monde, tous les citoyens du monde peuvent dire « Regardez, cet État est cet État génocideur », mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de sanctions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bras armés à la disposition de la CIJ. Ça fait partie des règles du jeu de l'ONU. Ça a été... Alors ce problème-là, cette faiblesse... on la retrouve à contrario. Regardez, si vous amusez, les figurations symboliques de la justice, les images, je veux dire. Si vous allez sur Internet et que vous regardez les images de la justice, c'est une dame assez grande, belle en général, avec une grande robe, qui tient d'un bras à une balance avec deux plateaux, c'est la balance classique à deux plateaux, en essayant de trouver le juste équilibre entre les deux plateaux. Mais elle a une deuxième main, cette dame. Elle a une deuxième main, cette dame, et dans cette main, elle a un glaive. C'est-à-dire qu'elle dit, une fois que le plateau est tombé dans un sens, j'ai de quoi sanctionner celui qui est dans le mauvais plateau. C'est ça, le glaive. Alors regardez toutes les images de la justice, elles tournent autour de ça. Donc cette personne belle, idéale à la limite, qui dit, voilà, j'ai jugé, il y en a un qui a tort, et celui qui a tort, il va payer pour ce qu'il a fait. C'est pas le cas de la CIJ. Alors ça a amené un commentaire qui n'est pas du tout de ce siècle, mais que je trouve d'excellente qualité et très très bien écrit, qui est d'un certain Blaise Pascal. Vous avez entendu parler de Blaise Pascal. Et qu'est-ce qu'il dit à ce propos? Alors je vous le dis, parce qu'il s'est très très bien dit, et tout est dit dans cette phrase. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice... Et attendez, bon, et n'a pas de force. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela, il faut que le juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. Ouais. Ouais. Bon, c'est tout. Il n'y a pas à y revenir. Hein, il n'y a pas à y revenir. Pascal a dit ça très bien. On en est là. Hein, donc, intérêt du geste sud-africain, qui a un poids politique considérable. En plus, l'Afrique du Sud, elle est membre des BRICS, qui n'est pas rien tout à fait dans la période actuelle. Et elle sait, elle a souffert de ce qu'était l'apartheid. Et donc, aucun pays mieux que l'Afrique du Sud ne peut comprendre ce que c'est qu'un régime d'apartheid. Et les citoyens actuels d'Afrique du Sud, il y en a encore qui ont vécu cette période-là. Bon, c'est très bien. Mais après, n'attendez pas, et surtout n'attendez pas la semaine prochaine, que Israël soit condamné par la Cour internationale de justice. Ça n'arrivera pas. Il sera condamné, oui, sur le principe, mais il n'y aura pas de sanction. Ça ne l'empêchera pas de continuer. S'il le décide et s'il n'y a pas d'autre moyen de l'arrêter, c'est là-dessus que je voulais insister, il faut trouver d'autres moyens pour l'arrêter que la saisine de la Cour internationale de justice. La saisine permet de modifier le rapport de force dans l'opinion internationale, qui est déjà très très défavorable à Israël. Ça mettrait un argument supplémentaire dans ce rapport de force internationale, dans l'opinion internationale, qui est très très mauvais pour Israël, on l'a compris, mais ça ne bougerait pas un gouvernement jusqu'au boutiste, comme l'est celui de Netanyahou, soutenu par un gouvernement... Alors jusqu'au boutiste, oui, jusqu'au boutiste, parce qu'au fond, le gouvernement de Biden est totalement jusqu'au boutiste, puisqu'il n'arrête pas d'envoyer de l'argent, des munitions, des porte-avions, en veux-tu, en voilà, etc. Donc le gouvernement de Biden est aussi jusqu'au boutiste que le gouvernement de Netanyahou. Ce n'est pas la Cour internationale de justice qui les arrêtera. C'est un rapport de force militaire, d'un côté, sur le terrain, dans les alliances militaires qui se concluent, dans toute une série d'événements qui vont se dérouler encore dans les semaines qui viennent, qui n'arrêtent pas. Alors, ces événements qui vont se dérouler ne peuvent pas, et c'est là que dans les vœux, ce que je disais au début de l'émission, dans ces vœux un peu timorés que chacun d'entre nous avait pour cette nouvelle année, personne n'a osé dire dans 8 jours c'est fini Gaza. Enfin, ça serait fini dans le pire des cas. Donc, on sait que l'affaire sera dure et que de toute façon, maintenant, c'est la force qui parle. La force diplomatique, la force économique, la force militaire. Et que le droit, la Cour de justice interviendra à un moment donné ou à un autre, mais ça n'aura pas été décisif dans le changement de la situation. Ce qui aura été décisif, c'est ce qui se passe sur le terrain. Je voulais faire cette mise au point sur la Cour internationale de justice, car elle est peu connue. Elle n'a pas eu souvent à s'occuper de problèmes touchant notre pays et notre continent. Elle a fait un assez bon travail dans quelques conflits frontaliers entre deux États, en disant qu'il y avait des conflits à la suite de décolonisation ici ou là, parce que la frontière avait été tracée au détriment de l'un par rapport à l'autre. Et là, la CIJ disait, ben voilà, le droit c'est ça. Et en général, on a entériné, les deux pays concernés, entériné le vote. Ils n'étaient pas tenus de le faire, mais ils l'entérinaient. Et c'est pour ça, et ça me ramène à un autre dossier qui reste pendant, c'est celui de la Guyana et du Venezuela. Je rappelle, alors je vous ai expliqué la situation, mais je rappelle que le Venezuela, à la suite du référendum que Maduro a lancé, a dit qu'il ne voulait plus avoir affaire à la Cour internationale de justice, car elle avait d'ailleurs déjà tranché, donc il n'allait pas attendre encore 2 ans que la question revienne sur le tapis, et il voulait s'en tenir à un accord qu'avait signé par l'État de Guyana, soutenu par la Grande-Bretagne ex-colonisatrice, un accord de 1966, et que cet accord prévoyait bien le retour de l'Equisiba dans le cadre de l'espace vénézuélien, dans l'État vénézuélien. On n'a pas bougé là-dessus. Et d'ailleurs, cette position a été actée par une rencontre qui a eu lieu, je crois, le 16 décembre, je ne sais pas où, dans un coin des Caraïbes, je ne sais pas où c'était, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui a mis les deux États face à face, donc l'État indépendant de la Guyana et l'État du Venezuela, et à la suite duquel ils se sont engagés tous les deux à régler leur conflit sans recours à la force. Ça a été acté le 16 décembre. Or, il se trouve... par la grâce de ce cher David Cameron, qui est devenu, vous le savez, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Rishi Sunak, il se trouve que monsieur les Britanniques, et je pense qu'il y est pour beaucoup, puisqu'il est pratiquement le maître désormais de la totalité de la politique étrangère du Royaume-Uni, qui échappe à ce pauvre Premier ministre qui est dépassé par les événements. Et donc... ce qui s'est passé, c'est que la Grande-Bretagne vient d'annoncer l'envoi d'un navire de guerre dans les eaux du Guyana. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne fait comme s'il n'y avait pas eu cet accord entre les deux participants, fait comme s'il ne s'était rien passé avant, comme s'il n'y avait pas eu d'abord un accord en 1966, s'il n'y avait pas eu une intervention de la CIJ. Et donc la Grande-Bretagne c'est extraordinairement inquiétant, la Grande-Bretagne fait un saut en arrière de 120 ans. C'est-à-dire la Grande-Bretagne, par le biais de l'intervention de David Cameron, se retrouve à faire ce qu'elle a fait en 1899 sur le territoire de la Guyana, où elle a nommé un tribunal paritaire pour dire est-ce que ce morceau de la Guyana fait partie du Venezuela ou n'en fait pas partie. Et je vous rappelle, parce que c'était assez cocasse, et c'était très révélatrice de ce qu'était la période coloniale et de ce qu'était l'Empire britannique à cette époque-là. En 1899, l'Angleterre se considère encore comme la maîtresse du monde. Souvenons-nous, c'est ça. Et donc elle dit, il y a un tribunal arbitral qui a décidé que c'était comme si, que ce territoire était guyanais, on n'en parle plus. Alors je rappelle que dans ce tribunal arbitral, nommé par la Grande-Bretagne, avec l'accord effectivement du gouvernement du Venezuela, il y avait 5 juges, 2 juges des États-Unis qui défendaient les intérêts du Venezuela, parce qu'à l'époque, on est dans le cadre de l'application de la doctrine Monroe, les États-Unis défendent l'indépendance des colonies européennes en Amérique du Sud, puisqu'ils considèrent que l'Amérique du Sud, c'est chez eux et pas chez les Européens. Donc les 2 juges des États-Unis sont là pour dire le Venezuela a raison. Et puis les 3 autres, alors il y a 2 Britanniques, bon, on voit bien quelle va être leur position, et le 3e, alors ça c'est un miracle de la diplomatie britannique impériale, il trouve un noble russe émigré, bien entendu, qui fait partie des fidèles de la reine Victoria et des gens qu'elle invite tous les jours à son souper. Ouais. Alors effectivement, on arrive à une majorité de 3-2, les deux Britanniques, le Russe, contre les 2 Américains. Mais effectivement, à ce moment-là, on dit la Guyana est souveraine sur le territoire des Esquimaux. Tout ça a volé en éclats. C'est fini, on n'en parle plus. C'était il y a 120 ans. Hein. Bon. Qu'est-ce que fait David Cameron ? Enfin, ce n'est pas lui, il n'a pas dit c'est moi qui envoie des bateaux, mais c'est lui qui a préparé la chose. Il dit, on revient en 1899, il ne s'est rien passé depuis. C'est-à-dire, on a une espèce de champ de désespoir de la Grande-Bretagne qui croit encore qu'elle est ce qu'elle était en 1899 et qui est encore nuisible. Qui est encore nuisible. Car qu'est-ce que ça fait, l'annonce de l'arrivée de ce bateau ? Ça n'a pas déclenché la guerre. Ça crée des tensions, ça donne des arguments à ceux du gouvernement guyanais qui étaient un peu embêtés par dire, finalement, il faut qu'on respecte notre parole, etc., et nos signatures. Ça crée du désordre pour le plaisir d'en créer. Et c'est ça le côté pernicieux de la diplomatie britannique, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de désordre, je me spécialise dans le fait d'en fabriquer. Alors, je ne vais pas revenir sur l'exemple de la Palestine et d'Israël, mais qui sont pour énormément dans le désordre du Moyen-Orient depuis donc cette période-là du monde. Mais c'est pas le jour et le lieu d'en reparler, on pourra le refaire. Donc voilà ce que je voulais dire sur la question de M. Cameron et de la Guyane. Et puis alors beaucoup de choses, alors ça se passe en Amérique latine, et je vais y rester un petit peu pour parler de ce qui se passe en Argentine. Alors en Argentine, vous savez que l'étonnant, l'extraordinaire monsieur Milei, extraordinaire en sens que on se demande toujours le matin en se levant quelle bêtise il a encore fait. Alors il en a encore fait, puisqu'il a commencé, et en cela il a été parfaitement riganien, il a déjà licencié 10 000 fonctionnaires. 10 000 fonctionnaires dans l'aide sociale. Ça veut dire, les sociales, ça veut dire, vous avez des difficultés, vous pouvez crever. Hein. Donc en soi, il est parfaitement fasciste. Hein. Bon, et il m'a fait penser, alors, Reagan, un premier geste qu'il avait fait pour montrer sa politique antisociale, il avait licencié tous les contrôleurs de la navigation, tous les aiguilleurs du ciel américains, qui étaient des fonctionnaires d'État, et ils avaient mis à la porte parce qu'ils avaient fait un mouvement de grève. Bon. Donc, alors c'était moins social, mais c'était dire « je suis le chef et je détruis l'État et les services d'État quand je veux ». Bon, Milei commence par ça, donc il lance les hostilités contre sa propre population. On avait compris, c'est très bien. La question est de savoir si sa propre population va suivre et enfin, se laisser faire, c'est pas acquis du tout. Mais ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est son positionnement international. Alors il y a le premier aspect, c'était la question des BRICS. Vous vous souvenez donc que l'Argentine faisait partie des 6 nouveaux membres des BRICS qui devraient intégrer le mécanisme des BRICS depuis hier. Bon, elle n'y est pas. Hein, elle n'y est pas. Alors là, on a un flottement diplomatique quand même de la part de Milei et de sa ministre des Affaires étrangères qui consiste à dire, alors ils disent pas, on n'y viendra jamais. Ils disent, c'est pas le moment. Vous voyez, là, il y a quand même une prudence là-dessus. Ouais. Ce n'est pas le moment parce qu'on a tellement de problèmes internes à régler qu'on ne va pas en plus s'embarquer dans cette histoire-là. Alors ça, c'est gentiment présenté, c'est gentiment emballé, mais ça veut dire qu'au fond, on ne veut surtout pas se fâcher avec tous ces gens-là des BRICS. Hein. Alors on leur dit, bah, écoutez, laissez-nous un petit peu de temps pour mettre en point notre politique, pour installer nos affaires et tout, mais ne nous fâchons pas. Hein. Vous voyez, c'est donc très très différent d'une sortie des BRICS avec pertes et fracas, qui aurait consisté à dire, comme dans le cas de l'Italie qui est sortie de la politique des routes, hein, de la soie, c'était c'est fini, on est fâché, au revoir, on ne se parle plus. C'est pas possible. C'est d'autant moins possible que les relations économiques de l'Argentine avec un certain nombre de pays des BRICS, je pense à la Chine, bien entendu, je pense à la Russie, je pense au Brésil voisin aussi, sont assez importantes pour ne pas être mises sous le boisseau et ignorées trop brutalement. Donc là, on a un jeu plus subtil. Alors, est-ce que M. Mieli est subtil? Je ne sais pas. Mais enfin, il fait tout pour qu'on croie qu'il ne l'est pas. Ça, c'est tout à fait clair. Hein. Mais il doit y avoir quand même autour de lui des gens qui raisonnent, et des gens y compris du business, des gens des affaires qui disent « Attendez, mais là, si on se fâche avec tous ces gens-là, on sera en difficulté. C'est bien joli d'obéir à Washington au niveau de la politique étrangère. C'est bien joli de se soumettre au FMI, au dollar, etc. » Mais la vie quotidienne des entreprises et de l'économie argentine, ça ne se joue pas uniquement dans les relations avec le Fonds monétaire international, dont on est déjà trop largement dépendant. Donc je pense qu'autour de lui, non pas dans les cercles militants et progressistes, mais dans les cercles capitalistes argentins, on doit lui dire « n'allons pas trop vite dans cette direction-là, on a plus à y perdre qu'à y gagner ». On verra. Ça, c'est une hypothèse que je fais, mais à la lecture des premières déclarations, je l'analyse un peu comme ça. Ce qui me conforte dans cette opinion, c'est que dans la présentation que Vladimir Poutine a fait hier des BRICS, puisque vous savez que depuis hier, donc, et pour la durée de toute l'année 2024, la Russie est l'animateur des BRICS. Il n'y a pas de présidence, il y a une espèce de rôle de présidence tournante, disons. Et donc, jusqu'à la fin de cette année, et ça se terminera par un sommet grandiose à Kazan en octobre 2024, la Russie est à la tête des opérations du BRICS. Et quand il a parlé, je parlerai des autres sujets qu'il a abordés dans ses interventions d'hier, quand il a abordé la question des BRICS, il n'a pas dit un mot sur l'Argentine, ni pour regretter, ni pour critiquer, rien. Il a parlé des cinq autres en disant, ben voilà, il y a cinq de plus, bienvenue, et on a beaucoup de choses à faire ensemble. C'est tout. Et donc là, il a fait preuve de beaucoup de doigté. Parce qu'il aurait condamné, il aurait dit les lâcheurs, les traîtres, vous imaginez, il crée l'incident diplomatique alors qu'il ne voulait surtout pas le créer. Et après tout, quand on fait les comptes du point de vue égoïste des BRICS, j'allais dire, vous aviez prévu d'intégrer 6 nouveaux pays, et pas des moindres en plus, hein, je rappelle quand même, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Bon, ça fait beaucoup de monde. Dire qu'on avait prévu d'en intégrer 6, on en a intégré 5 sur 6. Bon, on a intégré 5 sur 6, on a fait 80% du programme. Hein. Bon, donc il n'y a pas de raison de se flageller pour dire qu'on n'est pas bon. Si, on est assez bon. Alors il y en a un qui a des difficultés, on en reparlera. Lui-même n'est pas très sûr d'être complètement fâché avec nous, on en reparle. Mais Poutine n'a pas dit un mot sur l'Argentine. Il a simplement exposé, ce que je vais faire d'ailleurs pour vous parce que ça mérite de l'être, les points sur lesquels les BRICS allaient travailler au cours de cette année, sous sa conduite. Alors, je vous lis en gros ses positions. Il dit « Le travail des BRICS, ça constituera à promouvoir tous les aspects du partenariat des BRICS dans 3 domaines, la politique et la sécurité, hein, ça veut dire le problème lié à la guerre, l'économie et les finances, ainsi que les contacts culturels et humanitaires. » Ça, c'est le troisième pilier des BRICS, c'est-à-dire non seulement ce sont les États qui s'entendent, qui collaborent, mais il faut aussi que les populations, à tous les niveaux, c'est ça, ça veut dire les contacts culturels et humanitaires, il y ait des échanges, c'est-à-dire qu'on se voit entre associations, entre clubs de sport, entre clubs de photo, enfin tout ce qu'on peut imaginer, c'est très très vaste, et donc c'est les populations qui doivent s'habituer à se connaître. Effectivement, je pense que ce n'est pas évident pour un citoyen sud-africain d'avoir une connaissance un peu plus pointue de la vie culturelle en Inde ou en Russie. Hein. Bon. Et donc ça fait partie du travail. C'est-à-dire on fait connaissance, non pas simplement au niveau des chefs d'État. Les chefs d'État, finalement, on se rend compte en suivant l'actualité, qu'ils se voient tous les deux matins. Ils n'ont pas le temps d'approfondir. Et puis, en fait, ils peuvent prendre des positions sur tel ou tel sujet qui ne sont pas comprises du tout par leur population. Parce que la population d'une ville éloignée de Russie, elle ne sait pas trop comment réagit l'Argentin de base ou le Brésilien de base dans son village. Donc, il y a ça qui est un point très important à souligner. Alors, il développe un peu, nous contribuerons à la mise en œuvre pratique de la stratégie de partenariat économique des BRICS 2025 et du plan d'action pour la coopération en matière d'innovation des BRICS. Là, on rentre plus dans le détail des programmes. Innovation, ça veut dire que les BRICS aujourd'hui sont un potentiel d'innovation important, mais qui est encore mal réparti entre les 5 puissances des BRICS et entre même les 10 nouveaux, hein, puisque, effectivement, la capacité innovatrice de la Chine est affirmée, elle est reconnue, la capacité innovatrice de l'Afrique du Sud l'est moins, au sein du Brésil aussi, et ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est une réalité liée à l'état de l'économie et même à la population et à sa formation. Donc ça, c'est très très important, parce que le défi des BRICS, c'est de dire qu'il ne faut pas que nous soyons en retard technologiquement. Donc l'innovation, c'est un champ sur lequel nous devons travailler en commun. Ce qui veut dire travailler en commun, ça veut dire que s'il y a un expert russe en technologie de l'informatique qui trouve quelque chose, ouais, il va faire partager les amis des BRICS et pas forcément les autres. C'est ça que ça veut dire, hein, mise en commun d'un potentiel d'innovation collectif. Ce qui est très très important quand on connaît ce potentiel d'innovation, en particulier des Chinois. Il s'agit aussi d'assurer la sécurité énergétique et alimentaire. Ça veut dire que faire en sorte que tous les pays aient suffisamment d'énergie, sous quelque forme qu'elle soit. Là, ils ne jugent pas entre le fossile, le pas fossile, etc. Il faut que chacun puisse se chauffer et faire tourner ses usines et faire circuler ses camions et ses bateaux. Et alimentaire, il faut que chacun ait à manger. Et il ne faut pas qu'il y ait des embargos sur le blé, sur le riz, sur le maïs, etc. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Parce que c'est une réponse aux embargos abusifs et permanents des États-Unis qui privent toujours quelqu'un de quelque chose s'ils ne sont pas d'accord avec. Donc, renforcer le rôle des BRICS dans le système monétaire international. Alors, ça, c'est dans le sens, on le sait, on l'a compris, de faciliter les échanges avec les monnaies nationales de pays à pays, pour éviter de passer à la fois par le système SWIFT d'échange de données et puis par le dollar. Et étendre l'utilisation, voilà, c'est dit, des monnaies nationales dans le commerce mutuel. Alors, et il ajoute, nos priorités comprennent la promotion de la coopération dans les domaines de la science, de la haute technologie, de la santé, de la protection de l'environnement, de la culture, du sport, des échanges de jeunes et de la société civile. Et il ajoute, pour dire que ce n'est pas simplement le président de la Russie et le Kremlin qui s'occupent de ça tout seul, nous avons prévu 200 événements de différents niveaux et types qui seront organisés dans de nombreuses villes russes dans le cadre de la présidence. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de jeunes Sud-Africains, de jeunes Émiratis qui vont venir voir ce que c'est que la Russie, rencontrer des jeunes Russes, visiter une ville russe, etc. Voilà. C'est ça qui se passe de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un changement de la polarisation des regards. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, c'est encore vrai en Afrique, ça l'était, non, ça l'est plus maintenant, mais il y a quelques années, la polarisation du jeune Africain qui se sentait un peu à l'étroit dans son pays pauvre, parce que colonisé, c'était de dire je vais regarder en Europe ou même je vais regarder directement aux États-Unis. C'est ce regard-là qui est en train de changer. D'une part parce que les États-Unis ne font plus envie. Parce que le jeune diplômé africain qui dit « je vais aller aux États-Unis et peut-être je vais être mal vu parce que je suis de la mauvaise couleur », il peut peut-être avoir un autre accueil s'il va quelque part vers Rostov ou vers Ekaterinenburg. Bon, il y a tout ça qui se joue. Roselyne, vas-y, on t'écoute.
Oui, du coup, j'en profite, puisque tu parles de l'Afrique. Je voulais dire que Awa Don Mello, qui était un ancien président de Laurent Gbagbo, qui ensuite a été qui s'occupait de la promotion des BRICS en Afrique, etc., a été nommé vice-président des BRICS. Et il est en charge des... Comment on appelle ça ? Chargé des projets stratégiques de l'Alliance internationale des BRICS. Donc il va participer à tout ce que tu viens d'expliquer
tout
au niveau
fait.
Du programme.
Tout à fait. Donc il y a donc un cadre africain qui n'est pas d'Afrique du Sud qui est impliqué. Hein. Et en plus, je pense que c'est un petit signal à la présidence ivoirienne en disant il y a quand même des gens bien chez vous et on saura s'appuyer sur eux. Hein. Ça, je pense que ça, c'est une pierre dans le jardin macronien au passage.
Ouais.
Hein, on peut le pas. Hein, bah, ouais, t'es d'accord là-dessus. Voilà. Donc, alors, les BRICS, c'est ça. Et puis, alors, je vais vous dire en plus, voilà, parce que la journée du 1er janvier de Poutine, vous allez dire, on va dire, parce que le Poutine... Non, elle mérite d'être vue parce que d'une part, alors c'est assez rigolo, ça c'est pour le clin d'œil, il n'a pas mis de cravate, parce que c'était un jour férié. Il n'a pas mis de cravate et il s'est promené. Alors, il a parlé des BRICS à une assemblée de politiques. Ensuite, il est allé visiter une piscine qui était en rénovation. Il est allé ensuite dans un hôpital où on soignait des blessés de l'armée russe venus de l'opération spéciale. Il a encore fait... Voilà. Donc, il a fait une espèce de tour des popotes, comme on dirait, voir la Russie vivante à différents niveaux. Aussi bien donc les soldats en permission et en soins, le technicien des piscines en rénovation... un coup d'œil sur les BRICS. Enfin, il a montré, et ça je le dis parce que c'est pas de la flatterie, quel est le chef d'État qui est capable dans sa journée de tenir un discours amène, correct, non critique, sans dire qu'il a découvert, pas l'Amérique, mais qu'il est le seul à voir, tous les niveaux de sa société, là où elle fonctionne et là où elle travaille et là où elle met son énergie et son intelligence. C'est pas si courant. Hein. Donc ne lui enlevons pas ça. Quoi qu'on pense du personnage par ailleurs, quoi que vous pensiez les uns et les autres du personnage en l'occurrence. Bien, ceci, l'heure avance. Alors, je reste encore un tout petit peu en Afrique parce qu'on ira plus loin la semaine prochaine, je pense. Alors, il y a eu proclamation par la commission électorale des résultats de l'élection présidentielle de la République populaire du Congo. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en penser parce que d'une part, il y avait 60 millions d'inscrits, il y a un taux de participation de 40%. Ce qui veut dire que ce qu'on craignait, on en avait parlé il y a une quinzaine de jours, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en capacité de voter, que le matériel n'arrive pas à temps dans les bureaux de vote, dans cet immense pays, où les routes sont impraticables la plupart du temps, surtout dans cette saison. Bon, tout ça a eu lieu et effectivement, on a un président qui est élu. Alors, Tshisekedi a eu 78% des suffrages, ou 73% des suffrages exprimés, et son dernier opposant, Katumbi, a eu 18%. Mais en fait, avec 18 millions d'électeurs sur une population qui en fait 110, on est assez loin d'une représentation satisfaisante. Alors, ça amène à cette question en disant, se polariser sur ces élections en disant que c'est ce qui règle tout et c'est ce qui clarifie, ça clarifie pas grand-chose. Tshisekedi a gagné. Il a gagné, donc il va faire comme celui qui a gagné. Hein, il a gagné, mais il sait très bien que sa victoire est fragile. Qu'il y a beaucoup de secteurs du pays, en particulier dans l'Est, qui n'obéissent pas à l'État congolais, qu'il a des opposants. Alors, la question que je pose aujourd'hui, parce qu'on n'en voit pas, on n'y voit pas beaucoup plus clair, c'est de savoir si les opposants qui ont perdu, et ceux qui n'ont pas voté, ceux qui ne sont pas contents, vont beaucoup s'agiter et avoir pour s'agiter le soutien de l'Occident, genre type révolution de Gouleur, ou bien si ça va passer, parce que de toute façon, il ne fallait pas espérer dans le système électoral et dans l'état de l'infrastructure et de la logistique au Congo qu'il y ait quelque chose de meilleure qualité. C'est à un moment donné là qu'on va juger. Est-ce que l'Occident s'empare de cette victoire qui est nette au niveau des chiffres, mais qui n'est pas significative, hein, 18 millions de votants sur 100 millions de personnes, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Ou est-ce que l'Occident laissera passer, c'est là que ça va se jouer. Si l'Occident ne laisse pas passer donc, et appuie les mécontents, il y en a forcément, il y en a déjà qui sont manifestés, ça veut dire qu'il est en train de chercher une révolution de Gouleur. Mais ça, je ne suis pas en mesure aujourd'hui d'en juger. Je ne sais pas si Roselyne, tu as lu des choses là-dessus.
Oui, j'ai lu des choses. Ce que tu dis, c'est ça. Et, enfin, moi, j'ai entendu quand même parler d'élections controversées. Donc, il est possible qu'il y ait
des... Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est le titre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, controversées, elles le sont. On sait qu'il y a eu des réactions populaires, ben, ici et là. Est-ce que la controverse dépasse une émotion de ceux qui ont perdu et qui sont mauvais perdants, de ceux qui n'ont pas pu voter? Alors, je vais dans les controverses, par exemple, j'en cite une pour montrer le niveau du débat qui n'est pas très inquiétant. Effectivement, il y a des directeurs ou des présidents de bureaux de vote qui ont décidé de faire ouvrir le bureau de vote 24 heures de plus que prévu parce qu'ils n'avaient pas reçu les bulletins. Bon, et là, il y a des opposants qui disent « Ah, c'est contraire à la Constitution ». Alors là, c'est chercher effectivement des mauvaises querelles. Hein, ils ont pu voter. Bon, alors le président a violé la règle, mais en même temps, il a rendu possible l'expression citoyenne. Bon, il y a des endroits où ça n'a manifestement pas pu se faire, où on n'a pas dû voter.
On l'a dit l'autre fois, oui, voilà. On en a parlé. Oui.
Donc, je laisse la question. Je laisse la question du Congo ouverte. Je pense qu'en y reviendant, on y verra plus clair. Et puis, je voulais vous parler. Alors, ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est plus innovant, disons. Je voulais vous parler de ce qui est en train de se passer dans la mer Rouge. Alors, dans la mer Rouge...
C'est important.
Alors, ça fait partie du conflit palestinien, mais ça a un aspect très, très particulier du conflit palestinien.
Oui.
La mer Rouge, vous le savez, donc cette espèce de corridor donc, qui part du détroit sud, la porte de Bab el Mandeb, qui va d'un côté ouest sur le canal de Suez et qui se termine côté est sur le golfe d'Aqaba, donc en Israël et en Jordanie, puisqu'il y a Eilat en Israël et Aqaba en Jordanie.
Ouais.
Il y a deux ports au fin fond dans ce cul-de-sac qui est golfe d'Aqaba.
Ouais.
Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, depuis quelques semaines maintenant, les Houthis, donc, qui sont installés sur la berge donc, orientale du Yémen, dans la partie nord du Yémen, sont en train de tirer sur un certain nombre de navires de commerce. Alors, ça, on dit, on peut faire les commentaires qu'on veut, et de très loin, dire ils font ça, ils s'agitent, ils contribuent au conflit en Palestine, ils montrent qu'ils sont pro-palestiniens, ça on le savait, ils l'avaient déjà dit, etc. Là où il faut aller chercher un peu plus haut, savoir quels sont les navires qui ont été visés.
Exact.
Et là, ça devient beaucoup plus riche d'enseignements.
Ouais.
Parce qu'ils n'ont pas visé n'importe qui passait comme ça, ils passent un monde fou, j'allais dire, dans le détroit de Bab el Mandeb.
Ouais.
Mais ils ont visé quelques bateaux spécifiques. Et je vais commencer par l'un d'entre eux qui appartient à la première compagnie mondiale de transport des containers qui s'appelle MSC, hein, en anglais Mediterranean Shipping Company. Cette compagnie, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, qui est aujourd'hui la première compagnie mondiale pour le transport des containers et la deuxième compagnie mondiale pour les croisières, est dirigée, alors j'en ai déjà parlé, est dirigée donc par une famille. Mieux que ça, elle est pratiquement entre les mains, son capital entre les mains, de monsieur et madame. J'insiste là-dessus, monsieur et madame. Monsieur s'appelle Gianluigi Aponte, c'est un citoyen italien d'origine de la région napolitaine, et dont le siège est installé en Suisse, et lui il est en Suisse depuis un certain temps. Et ce monsieur a épousé une dame qui s'appelle madame Diamant. Ça ne s'invente pas, hein. Alors, je ris tout ça. Elle s'appelle Madame Diamant. Bon, et alors, ben voilà. Là où il faut arrêter de rire, enfin, où c'est moins drôle, c'est que Madame Diamant, elle est née à Haïfa. Elle a la double citoyenneté israélienne et suisse. Ah. Et elle a 50% du capital, moitié à Jean-Louis, moitié à Madame. Ah. Ça explique pourquoi Madame Diamant, elle est la septième femme porteuse d'argent dans le monde. Elle est à la tête de 32 milliards de dollars. Elle est classée chez Forbes. Alors ça, on ne le dit pas trop. Ça, c'est très, très intéressant. Et donc, quand les Houthis se mettent à tenter de tirer sur un navire appartenant à Madame Diamant, ils ne tirent pas au hasard sur le premier bateau qui passe. Il dit, Madame Diamant, on sait que ce bateau vous appartient. Et on sait que vous faites partie du lobby sioniste. Donc c'est pour ça, on vous met en garde, attention, on sait qui vous êtes, hein, et on ne vous laissera pas faire. Bon, donc là ça doit porter, et ils ne font pas ça pour d'autres compagnies. Là ils l'ont fait, parce que là ils ont bien visé leur cible. Et c'est intéressant à suivre, parce que ça a des implications dans la politique française. Parce qu'il faut savoir, je le dis et je le répète, que le secrétaire général de l'Élysée, M. Alexis Kohler, inspecteur des finances, camarade énarque de M. Emmanuel Macron, a été, pendant le temps de la première campagne présidentielle de M. Emmanuel Macron, donc fin 2016, début 2017, directeur financier de Madame Diamant. Directeur financier de Madame Diamant. Alors vous mettez ça en rapport, 32 milliards de dollars, directeur financier de Madame Diamant et en même temps, organisateur de la campagne électorale de M. Emmanuel Macron. Ce qui veut dire, et je pèse tout à fait mes mots, que s'il manquait un milliard de dollars dans la caisse pour la campagne de Macron, on savait très bien où aller les chercher. Et que M. Kohler était chargé de ça. Tout ce qu'on lui a mis sur le dos après, C'est de la rigolade. C'est rien du tout par rapport à ce phénomène-là, qui est un phénomène très très grave de corruption au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui obéit, enfin, qui est à la dépendance d'intérêts étrangers parfaitement ciblés et parfaitement incontrôlables. Je rappelle, je l'ai dit et je le redis, que la société MSC est la seule société du genre parmi toutes ses concurrences à ne pas être cotée en bourse, puisque le capital est entre les mains de M. Aponte et de Mme Diamant, il n'y a pas besoin de cotation en bourse. Donc son cours ne peut pas monter et descendre. Hein. C'est-à-dire que les 32 milliards qu'elle a, elle les a, ils sont à elle. Ce n'est pas comme les milliards de M. Des uns ou des autres qui sont liés à des... on parle des milliards d'Elon Musk, on parle des... Là, ça dépend des cours de bourse. Hein. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est leur argent et puis c'est tout. Il n'y a rien à y voir, il n'y a rien à dire. Mais voilà ce qui se passe dans l'État français. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, dans le bureau qui est le plus proche du bureau d'Emmanuel Macron, un monsieur qui est un agent direct des intérêts de cette personne et des intérêts sionistes qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il y a au sein de l'Élysée même un conflit politique. Je veux dire, si jamais, imaginons, on peut rêver, on est en début d'année, on fait des vœux, que M. Macron se dise que la politique israélienne et états-unienne à Gaza n'a pas d'avenir, qu'elle est catastrophique, que ça pose des conditions, des contraintes extrêmement graves à la politique française, est-il en capacité d'imposer sa vision du monde ? Puisque l'autre, dans le bureau d'à côté, va dire « je ne suis pas d'accord ». Et que l'autre le tient. Donc, vous voyez, ça veut dire, non, je vais assez loin. Ça veut dire que l'Élysée est en phase potentiellement explosive. Alors, ça se voit à différents signes. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques jours, on était en pleine période des fêtes où tout le monde pense à autre chose. Monsieur Macron a relevé de ses fonctions le directeur des services d'espionnage à l'étranger. La DGSE, la fameuse DGSE.
Oui, DGSE.
Voilà. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Ben, il se trouve que... Alors je vais reprendre les positions officielles des uns et des autres. Ce monsieur, dont le nom vous échappe peut-être, je dois l'avoir sur un de mes papiers, je ne l'ai pas, ça n'a pas d'importance. Bon, ce monsieur s'appelle monsieur Emié, E-M-I-E. C'est un diplomate de formation qui a été en poste dans plusieurs pays arabes, qui connaît bien la situation de ce monde-là et qui est un bon produit, j'allais dire, du Quai d'Orsay, de la diplomatie française, en ce sens qu'il connaît les pays où il a officié, il s'intéresse à la politique. Bon. Ce monsieur était en poste depuis le milieu de 2017, puisqu'il avait pris la place de celui que M. Macron avait licencié brutalement. Bon. Et il vient d'être remercié, sans qu'on explique beaucoup pourquoi, mais il vient d'être remercié et M. Macron a mis à sa place un de ses fidèles, un de ses amis de l'école alsacienne, un de ses amis, alors je ne sais pas s'il a fait l'ENA, mais à l'école alsacienne c'est établi, qui s'appelle M. Erner, E-R-N-E-R, ouais. Qui va en fait prendre ses ordres directement au chef. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui va se passer, c'est que M. Macron, avant de réfléchir à sa politique, en particulier sur le conflit palestinien, va s'appuyer sur un monsieur en qui il a... Enfin, non, va même pas s'appuyer, va être appuyé par un monsieur qui n'a aucune connaissance du monde arabe, qui n'a aucune connaissance de ses affaires diplomatiques, et qui vient alors, d'où il vient ? Ben, il vient simplement de la direction du contre-espionnage. Alors, vous savez qu'on distingue le renseignement extérieur, c'est-à-dire aller voir à l'extérieur ce qui se passe pour que la France sache où elle met ses pieds dans un pays étranger, et puis le contre-espionnage qui consiste sur le territoire national à regarder quels sont les agents de puissance étrangère qui peuvent avoir des attitudes ou des politiques nuisibles aux intérêts de la République française. Bon, monsieur, il était là, il était donc, il passe du contre-espionnage à un secteur donc, qui est le renseignement à l'étranger dans lequel il ne connaît rien. Ce qui veut dire que Macron va lui faire avaler à peu près tout ce qu'il voudra. Alors, est-ce que c'est Macron qui y arrivera ou est-ce que c'est colère ? Là, on est en pleine situation, j'allais dire, shakespearienne. Il y a un drame au sein du palais royal. Qu'est-ce qui va en sortir ? Alors, simplement, ce que je voulais signaler, c'est qu'il y a manifestement dans les instabilités, dans les incertitudes de Macron, des questions qui se posent. Macron lance des idées folles. Il est pro-israélien, bien sûr. Il fait projeter le drapeau israélien sur la tour Eiffel, etc. Enfin, tout le mauvais goût possible, et encore le mot est faible, il l'utilise. Mais en même temps, il se pose certainement des questions plus profondes. Car imaginez que les bombardements outils sur la navigation dans le canal, enfin dans la mer Rouge, ça grave. Il faut savoir que quel est l'État qui serait un des États les plus victimes de la fermeture de la mer Rouge, et donc indirectement du canal de Suez, puisqu'il faut passer par la mer Rouge, serait la France. Alors il y aurait aussi l'Italie, la Grèce, etc. Et ça serait directement les intérêts français, c'est-à-dire l'arrivée du pétrole pour la France, l'arrivée du gaz naturel du Qatar pour la France, etc., qui seraient troublés. Et donc, sans avoir du tout mis la France sur la table des questions en cours, les outils peuvent dire, si la France est trop méchante avec les Palestiniens, on pourrait interrompre l'arrivée de gaz et de pétrole sur le territoire de la République française. Ouh là là. Donc M. Macron réfléchit à ça. Et si je parle de ça avec un peu de conviction, c'est que Marseille et son port sont un des points d'arrivée de ce commerce international venant de la mer Rouge, avec en particulier tous les produits énergétiques. Et pas que ça, puisque aussi les porte-containers qui arrivent d'Asie sont chargés de toutes les marchandises que vous avez pu acheter pour Noël dans les supermarchés, ouais, entre autres. Bon. Donc vous voyez que là, on a une vraie fragilité potentielle de la position française, parce que beaucoup plus. Alors les États-Unis s'en fichent complètement que la mer Rouge soit fermée. Hein. Beaucoup d'autres pays aussi. Le Brésil s'en fiche aussi, etc. Il y a beaucoup de gens que ça ne concerne pas directement. Les pays riverains de la Méditerranée, ça les concerne directement, et la France au premier chef. Donc c'est là que je sens une fragilité dans la position macronienne, avec en plus donc l'agent sioniste qui est dans le bureau d'à côté, qui est là pour distribuer les milliards de Madame Diamant. Hein. Et donc on a là, je pense, une crise potentielle dans l'État français forte. Ça n'empêche pas Macron de continuer à se livrer à ses activités de privatisation, de passage en 49-3 et tout. Mais on sent bien que là, il laisse un peu Madame Borne jouer toute seule, parce que lui, il est pris dans un faisceau de contradictions dont il pourrait, j'allais dire pas mourir au sens physique, mais dont il pourrait mourir politiquement. C'est un peu de ça qui va se jouer en 2024. On n'est pas du tout... Alors, je dis ça pour tous ceux qui sont en train de regarder qui va être candidat en 2027. Ne vous cassez pas la tête, c'est beaucoup trop tôt. Il va se passer tellement de choses en 2024 que vous aurez toujours temps, fin 2024 ou au début de l'année prochaine.
Est-ce qu'il peut modifier la Constitution ?
Oui, alors il peut modifier la Constitution. Alors, bien, tous les jeux sont possibles, mais ça, c'est un signe d'extrême fébrilité macronienne. Hein. Et on sent, en plus, avoir son visage, on sent un monsieur fatigué, qui fait trop d'avions, qui change trop de fuseaux horaires, etc. Donc il est fébrile, et c'est le moment. Alors la fébrilité, c'est le moment où on peut se ressaisir, ou au moins, ou au contraire, s'écrouler. À voir. Mais surtout, ne nous laissons pas amadouer par cette question du vote pour le Parlement européen. Non. C'est rien du tout. Ça, c'est un détail. C'est un détail parce que la France ne sait pas où elle va. Et le chef de l'État de la France ne sait pas où il va. Hein. Souvenez-vous de tous les sourires et toutes les amabilités qu'il a fait au président chinois. Et puis après, il a complètement oublié ce qu'il avait fait. Donc on a un personnage de plus en plus fragile. Et là, cette affaire donc des outils met le doigt sur cette affaire-là. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Oui, Habib.
Il y a eu un bombardement de la part des Américains sur les navires outils.
Tout à fait.
Oui, et on ne sait pas. Bon, ils ont dit qu'ils répondront.
Voilà, oui. Alors, on sait...
Et puis, il y a un navire de guerre, je crois, iranien
qui est là, qui arrive, il circule. Voilà. Alors, il faut savoir, effectivement, que les techniques balistiques et le matériel balistique des outils est matériel d'origine iranienne, ou avec de la technologie iranienne. Donc, il y a des rapports extrêmement étroits. Et je voudrais finir sur ces rapports entre l'Iran, les outils et la résistance palestinienne, pour dire qu'il y a eu à Beyrouth, la semaine dernière, une rencontre de la résistance palestinienne. Alors j'insiste parce que ça nous oblige à sortir de ce schéma, c'est le Hamas contre Israël et tout. C'est pas le Hamas, c'est la résistance palestinienne. Il y avait donc effectivement le Hamas, il y avait le Front populaire de libération de la Palestine et son homologue un peu différent. Ouais. Il y avait le Hezbollah qui était là et il y avait les Houthis. Donc c'est la résistance palestinienne, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des gens qui se battent. Il faut bien voir que la cause palestinienne a été défendue, et en général mal, par des États arabes qui disaient on s'en prend au peuple palestinien qui est un peuple arabe, mais c'était les États arabes qui portaient la cause palestinienne plus que les Palestiniens eux-mêmes. Là, ce qui s'est passé à Gaza le 7 octobre, c'est que les Palestiniens eux-mêmes ont décidé de rentrer sur le territoire qui leur a été volé. Ça, c'était et c'est les Palestiniens. C'est pas des Jordaniens, c'est pas des Syriens, c'est pas des Yéménites, c'est pas a fortiori des Saoudiens, des Qataris.
Oui.
C'est la résistance palestinienne. C'est ça qui se joue. Et c'est pour ça, et c'est ce qui explique, sans que ça nous rassure en quoi que ce soit, la férocité sioniste, c'est qu'ils ont conçu, ils ont compris que c'était une résistance palestinienne, armée, mais qui n'est pas qu'armée, parce qu'en même temps, effectivement, il y a des contacts politiques de ce type-là, c'est-à-dire que le Hamas se réunit avec ses alliés politiques, hein, qui sont des alliés de terrain, et c'est eux qui se battent, les Houthis se battent à leur façon, le Hezbollah, pour l'instant, se bat sur la frontière, en attendant mieux.
Avec beaucoup de.
Voilà.
De
et puis le Hezbollah. Voilà. Et le Hezbollah irakien fait de même sur les troupes américaines. Oui. Donc on a une situation qui est en train d'évoluer. Alors tout le monde peut dire, et je le dis, mais en fait je le dis un peu avec la gorge serrée, c'est-à-dire le temps que vous disiez ça et que ça ait de l'effet dans les faits, il peut mourir encore 1000-2000 Palestiniens à Gaza.
Ça continue tous les jours.
Ouais. Et en fait, rien ne se passera. Rien ne s'arrêtera à Gaza tant que ces rapports de force politique ne seront pas tombés dans la bonne direction, c'est-à-dire la résistance domine la situation. C'est intéressant à suivre, d'autant plus que ça va se faire à un moment où les États-Unis sont extrêmement fragilisés par une campagne électorale qui va s'avérer être désespérante, avec des positions excessives de part et d'autre, et avec un peuple américain qui ne sait plus trop où il est. Et qui se sent maltraité.
Il y a eu un grand changement aussi en Amérique, hein, la jeunesse surtout.
Tout à fait. Ah oui, on voit ça dans les manifestations palestiniennes et tout. Et on a une vraie crise sociale, économique dans les profondeurs de l'État des États-Unis qui fait qu'on n'aura pas à la fin de l'année un président, de toute façon, quel qu'il soit, qui soit de taille à maîtriser le monde comme il aurait encore l'ambition de l'être. Voilà ce que je voulais dire. On va finir par une petite musique plus réjouissante, oui. C'est Paco Ibáñez, le chanteur espagnol. Oui, j'arrête là. On se revoit la semaine prochaine. Donc, Paco Ibáñez qui chante une chanson qui est une chanson poétique en disant « C'est l'histoire d'un loup qui ne mange pas les agneaux.
»
Mais c'est évidemment un conte de Noël. Il fallait bien que je finisse sur une note un peu rigolarde. Voilà. Merci de votre attention et à mardi prochain. Merci Roselyne. Merci Abim.
De José Agustín Goytisolo aussi, voici une petite fable. Érase une vez, il était une fois. Il était une fois un petit loup très gentil qui était mangé par tous les moutons. Voilà. Je me demande toujours de quel petit loup il s'agit. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.